RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes samedi, alors on dit quoi est de retour et notre émission spéciale cuisine se poursuit avec cette fois un volet entrepreneuriat. Samedi dernier, des passionnés de cuisine vous ont parlé de leur parcours, Nathalie, Aïssetou. Aujourd'hui, elles sont encore à nos côtés pour continuer d'échanger sur cette gastronomie africaine. Et ce n'est pas tout, Ndeye Choi, blogueuse culinaire, et Ayité Adjavon nous parleront de leur projet, le lancement d'épices 100% africaines et un bouillon 100% naturel made in Africa. Anna et Joanne, nos deux chroniqueuses préférées, seront elles aussi de la partie pour poser des questions à nos invités et nous proposer des recettes pour épater vos amis. Allez, on y va. Angata, c'est parti.
Alors, on dit quoi ? Avec Djaran Djaï.
Et comme je le disais à l'instant, elles sont toujours à nos côtés. Nathalie Brigogoum, écrivain, chef cuisinière, fondatrice du blog Envolée Gourmande et consultante culinaire. Bonjour.
Bonjour Diara.
Fatima Wan et elle, pâtissière et fondatrice des marques Tima Wan et Wan. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Joanne Yambo, fondatrice du magazine Inspire Africa, chroniqueuse alors on dit quoi, et créatrice de la plateforme Miam Show. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Diara.
Anna Touré, fondatrice de l'agence Anna Touré PR, une agence de communication spécialisée dans les relations publiques, mais aussi et surtout chroniqueuse d'alors on dit quoi. Coucou Anna.
Bonjour Diara.
Alors, parlons dès à présent de votre parcours, Fatima Wan. Fatima, comment est née votre passion pour la pâtisserie ?
En fait, ça a commencé quand je suis venue en France pour faire mes études supérieures. Donc, c'est la première fois que je vivais toute seule. Et enfin, avant de vivre toute seule, j'avais vécu un temps avec mon père, qui est finalement celui qui m'a appris à cuisiner, en fait. Et du coup, rapidement, il fallait que je me fasse à manger. Donc, je me faisais à manger. Et puis, étant très gourmande et aimant le sucre, j'ai commencé à faire des gâteaux et j'ai trouvé une grande passion, en fait. Beaucoup d'intérêt et la précision que la pâtisserie demande me rappelle beaucoup la chimie, qui était une de mes matières préférées quand j'étais au collège, au lycée. Et du coup, oui, c'est parti de là et ça a pris de l'ampleur avec le temps.
Continuons de parler de vos parcours et surtout de vos études. Vous avez fait des études de gestion et de finance et vous avez travaillé dans une banque d'affaires. Comment avez-vous atterri dans la pâtisserie professionnellement ?
En fait, c'est vraiment cette passion qui prenait de l'ampleur. Et donc au début, je faisais des gâteaux pour mes amis à la fac. Ensuite, ça a été mes collègues. Et puis, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Mes collègues attendaient tous les lundis que je ramène des pâtisseries. Et c'est vraiment avec le temps où je suis tombée amoureuse de la pâtisserie. À un moment, ça a pris tellement d'ampleur que je me suis dit, bon, dans 10 ans, j'arrête la banque et je deviens pâtissière. Et c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu parce que j'ai eu une opportunité, en fait, de passer le CAP de pâtissier parce que c'était beaucoup plus calme dans mon poste. Et voilà, donc je me suis dit, bon, c'est le moment de passer le diplôme et puis on verra ce qu'on en fait après. Et voilà.
Alors, comment s'est passé justement ce CAP que vous avez obtenu en candidate libre, c'est
oui,
bien ça?
Exactement. Oui, en candidate libre parce que j'ai pas réussi à prendre une année pour le faire comme je le souhaitais. Donc j'ai vu que beaucoup de gens avaient réussi en candidat libre, donc je me suis dit pourquoi pas. Tantôt, ça coûte rien et c'était une période assez intense de préparation sur les week-ends, sur les vacances, les congés payés, donc aidée d'un pâtissier qui était l'ami d'un ami en fait et de plein de petites formations que j'ai fait au cours de cette année-là.
Vous avez fait des stages durant ce CAP ?
Il
y a des cours
de
peut-être qui vous ont participé.
Formation, oui. Déjà, j'ai fait des cours sur des thèmes particuliers, des demi-journées, puis j'avais fait un stage d'une semaine, voilà, où on voyait toutes les bases de la pâtisserie en accéléré.
En pratiquant, bien sûr.
Oui, en pratiquant avec un chef pâtissier, donc c'était un stage, oui, pratique, voilà.
Et comment avez-vous réagi ? Qu'avez-vous ressenti en voyant votre nom dans la liste des admis ?
J'ai pleuré. J'ai retrouvé la photo l'autre jour parce que c'était il y a à peu près 5 ans, donc la photo est ressortie dans mon téléphone. J'étais très émue parce que ça représentait vraiment énormément de choses pour moi, ce diplôme, et parce que j'avais investi tellement et qu'il y avait eu des choses pendant l'examen qui m'ont fait douter que j'allais l'avoir. Donc ouais, c'était un soulagement. J'ai pleuré, je me souviens très bien.
Et dès l'obtention justement de ce diplôme, vous avez quitté votre CDI finalement ? Quelle a été l'étape suivante ?
Alors l'étape suivante, ça a été de me poser la question, mais qu'est-ce que je fais avec ce diplôme maintenant ? Est-ce que j'attends effectivement 10 ans comme j'avais dit, donc qu'est-ce que je fais concrètement ? Enfin déjà au bout de 3 mois, je pense que je savais que je voulais partir pour être entrepreneur aussi, et ça a été un processus qui a duré à peu près 1 an et demi, de réfléchir à ce que j'allais faire concrètement comme projet, et puis de me tester aussi en prenant un statut d'auto-entrepreneur, et puis en vendant autour de moi, mes amis, mes collègues.
Parce que vous avez finalement quitté quitté votre CDI. Ouais. Et quel était votre état d'esprit à ce moment-là? C'est quand même une sécurité aujourd'hui en France.
La peur, c'était plus avant de le quitter, en fait. Donc, c'était énormément de peur, d'appréhension, de doute, de je vais mourir, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à manger, etc. Et puis, en fait, c'est des choses qu'on réussit à vaincre. Et puis, ce qui était beaucoup plus fort, c'était l'idée de me dire, je vais créer quelque chose, en fait. Je vais créer à la fois une entreprise dans laquelle un jour des gens auront envie de venir travailler. Et puis, je vais aussi aller à fond dans ma passion. Et c'était des choses assez convaincantes finalement pour me faire sauter le pas.
Est-ce que vous avez justement convaincu votre entourage? Comment a-t-il réagi lors de cette décision de tout quitter pour aller faire de la pâtisserie?
Il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu pas mal de soutien d'une part. Et puis, il y a eu, oui, effectivement, des gens à qui ça peut faire peur. En fait, de voir quelqu'un finalement prendre un risque aussi énorme, et donc je ressentais effectivement les doutes de certaines personnes quand je disais que je voulais quitter mon CDI, etc. Donc c'était aussi, c'est minoritaire, mais il y a aussi un peu de scepticisme de gens qui se disent c'est un caprice, un coup de tête, elle va rien faire en fait de son temps libre finalement qu'elle va avoir. Et puis oui, beaucoup de soutien, surtout ma mère, mon grand-père et ouais, une grosse partie de ma famille.
La famille, une valeur sûre. Vous écoutez Alors on dit quoi, ce samedi notre émission s'intéresse aux jeunes qui tentent l'aventure dans la cuisine, et nous avons des auditrices en ligne qui sont là pour témoigner. Vanessa, bonjour.
Bonjour.
Vanessa, vous êtes une passionnée, vous aussi, de cuisine?
Tout à fait, oui.
Alors, comment la cuisine intègre votre quotidien aujourd'hui?
Bah, écoutez, moi, je rends des gens heureux et très contente. Quand je rentre chez moi, je sais que j'ai servi à quelque chose. Donc, voilà l'intérêt de mon métier.
Parce que vous êtes chef à domicile, c'est bien ça?
Je suis chef à domicile, je suis spécialisée dans la cuisine française et j'ai près de 15 ans d'expérience dans le domaine.
Vous êtes originaire du Burkina Faso. Est-ce que vos origines influencent vos recettes que vous proposez à vos clients?
Oui, tout à fait, parce que d'une certaine manière, je suis métisse, entre guillemets. Je suis française, originaire du Burkina Faso, et puis il y a des plats ou des recettes qu'on fait que les Français ne font pas. Donc, par exemple, j'ajoute des petites touches, des petites notes exotiques dedans.
Quels sont aujourd'hui vos produits fétiches, par exemple, ou un plat que vous recommandez souvent à vos clients?
J'ai testé la dernière fois une recette qui a plu à tout le monde, tous les gens de tous les horizons, entre guillemets, je veux dire brésiliens, algériens, camerounais. J'ai fait une crème brûlée au bissap et ça meringue au gingembre. Donc en fait, vous avez bien compris, c'est le métissage de la France. Enfin, le bissap, parce qu'en Afrique, tout le monde connaît le bissap, et c'est une fleur qui commence vraiment à se faire connaître. Et ma petite touche à moi, donc la meringue au gingembre. Et ça a vraiment été apprécié.
Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir partagé avec nous votre expérience.
Merci à vous.
Avec nous également en ligne, Nathalie Sherman. Nathalie,
oui,
bonjour.
Bonjour.
Alors Nathalie, vous êtes derrière la marque Jo et Avrel. Jo et Avrel, qui sont ces deux personnes?
Alors, Jo et Avrel, écoutez, c'est tout simplement la référence de Dalton. Mm-hmm.
Alors, on est loin des dessins animés, nous on veut s'intéresser à la cuisine. Parlez-nous de ce qui est derrière cette marque.
Ah ben, ce qui est derrière cette marque, mm-hmm. c'est une épicerie fine africaine, mm-hmm. donc où on travaille les produits africains, légumes et fruits. Mm-hmm. On propose des jus aussi.
Alors, vous êtes chef et vous proposez des produits sans conservateur et sans colorant.
Tout à fait.
De quel constat êtes-vous parti pour initier ce projet?
Alors, moi, l'aventure a commencé en fait grâce à un fruit qu'on trouve essentiellement en Afrique centrale, le safou. Et le safou, moi, comme j'ai beaucoup voyagé, donc chaque fois que je rentrais en France, je trouvais ce fruit. Mais après un mois, il fallait repartir à l'étranger, donc fallait congeler ou fallait donner à gauche et à droite. Donc j'avais déjà commencé à travailler cette crème-là. Je me dis, bon, ben, l'année d'après, quand je reviens, parce que ce n'est pas la saison, parce que, bon, il faut que je retrouve ma crème, mon safou. Donc j'ai commencé à travailler, en fait, le safou comme ça, en ne sachant pas ce que ça allait donner l'année d'après. Et quand je suis rentré l'année d'après, je vois ma crème, elle est intacte. Je me dis, bon, OK, on va essayer. Donc l'année d'après, j'ai fait plein de pots que j'ai laissés, que j'ouvrais en fait chaque année que je revenais. Et sans conservateur, en fait, j'ai réussi. Donc je me suis dit, bon, ben, je ne vais pas m'arrêter là. Il n'y a pas que le safou en Afrique, donc je vais essayer de toucher à d'autres légumes et fruits. L'aventure est partie comme ça.
Et Nathalie, vous nous parlez du Safou. Est-ce qu'il y a une autre spécialité que vous proposez ?
Alors, j'ai trois crèmes, tartinables salées pour l'apéritif. Je propose le niébé, qui est un petit haricot à pois noirs. Je propose le sakasaka, qui est un plat national de chez moi, au Congo. Mm-hmm. Donc, c'est des plats que je propose. On ne les mange pas comme on les mangerait en Afrique. Donc, j'ai raffiné la chose pour pouvoir toucher un peu tout le monde, pour un peu balayer aussi les clichés qu'on a de la cuisine africaine.
Et oui, c'est ce dont on parle justement, essayer de vulgariser et démocratiser cette cuisine. Nathalie, est-ce que vous parlez justement de toucher tout le monde ? Pouvez-vous nous décrire votre clientèle ?
Alors, mais ma clientèle, en fait, au départ, quand j'ai fait, je pensais africain. Mais à ma grande surprise, c'est quelque chose que les occidentaux ont accueilli, mais avec grande joie. Parce mm-hmm. qu'aujourd'hui, je touche quasiment tout le monde. La diaspora, les bobos, enfin, les Français, oui. Les produits sont en Suisse. Donc, je touche vraiment tout le monde. Et comme je dis, c'était vraiment la manière d'aller draguer tous ces gens-là, tous ces novices qui ne connaissent pas, mm-hmm. à découvrir tout doucement la cuisine africaine.
Et si vous aviez justement un message à passer autour de cette cuisine africaine, Nathalie, quel serait ce message ?
Moi, chaque fois, je dis en Afrique, on mange bien. Donc, chaque pays, en fait, a sa cuisine. Mais tout le monde, en fait, revendique que, ouais, on mange mieux chez moi. Mais en Afrique, on a des bons produits. Mm-hmm. On mange bien. Donc, il faut pas rester sur sa zone de confort. Il faut tester avant de dire que non, parce qu'on a entendu le truc là, c'est pas bon, là, ça sent fort. Non, il faut tester, évoluer.
Testons les produits africains. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Nathalie. Joanne, je vous ai vu réagir durant cet appel. Une réaction, peut-être ?
Bah oui, déjà, avant tout, je sais pas si Nathalie est encore en ligne, mais moi, j'ai eu l'occasion de tester la crème de Safou, mais c'est un délice. Enfin, franchement, je vous invite tous à aller acheter la crème de Safou et à le servir à vos apéros. Vous allez faire mouche. Et au-delà de ça, en fait, moi, ce qui m'a un peu interpellée dans le message de Vanessa, c'est au niveau de sa clientèle. C'est quelque chose que je déplore. C'est-à-dire que nous, on connaît ces produits, le Safou, qu'on appelle prune, par exemple, au Cameroun. Je le connais. Donc, quand je vois crème de Safou, je vais me dire oh bah bon ok, le prix c'est un peu cher alors que je peux l'avoir chez Château Rouge. Et donc du coup c'est l'étranger qui va vouloir investir et acheter ce produit, et ça je trouve ça dommage parce que on est les premiers ambassadeurs de notre gastronomie. Donc si nous-mêmes on ne la valorise pas et qu'on veut pas y mettre le prix, bah ça va être très difficile aussi à un moment donné de l'exporter.
Nathalie, effectivement, est-ce que vous ça vous étonne aussi que ce sont des occidentaux plutôt qui apprécient les produits de Jo et Avrel davantage en tout cas que les Africains eux-mêmes?
Aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui apprécient le produit. Mais je suis sûre que comme le produit commence à se faire connaître, à se démocratiser, il touchera tout le monde, c'est ce qu'elle disait, il touchera tout le monde. Mais c'est vrai qu'au départ, on voit un pot bien packagé, ah il est petit, ben, je vais le faire moi-même. C'est souvent le réflexe que nous avons chez nous.
Et Nathalie est justement encore en ligne avec nous et elle veut réagir. Nathalie ?
Non, c'était juste dire, aujourd'hui, c'est vrai que l'Africain, c'est, mes frères africains, c'est la peur. Le pot est petit, mais en fait, on voit pas le travail qu'il y a derrière. Le pot est petit, certes, mais dans le Safou, il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut le remplir, ce pot. D'où le prix.
Ouais, c'est un gros noyau, hein.
Le noyau est plus gros que la consistance. Alors, continuons de parler de vous, Fatimata. Alors, après un an et demi de préparation, vous avez donc lancé finalement One Pâtisserie. D'abord, parlons de cette préparation. Qu'avez-vous fait concrètement durant ces un an et demi ?
J'ai pas beaucoup dormi, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai fait alors pas mal de petites formations en photo, en marketing digital. J'ai préparé le business plan. J'ai fait une campagne de crowdfunding aussi. Et voilà, et j'ai continué encore une fois à tester mes produits, à les vendre, pas beaucoup, mais à continuer de tester, à avoir des retours des gens pour essayer d'améliorer tout ça.
Et quelles sont justement les étapes obligatoires pour passer du rêve au projet d'entreprise ?
Déjà, effectivement, avoir l'idée. Et puis, partant de l'idée, trouver comment monétiser l'idée, comment faire en sorte que l'idée soit rentable. Voilà, donc à qui vendre, comment le vendre, etc. Quelle quantité vendre aussi, hein, des choses assez qui peuvent sembler très basiques, mais qui ne le sont pas, en fait, finalement, quand on est devant. Et puis, tout ce qui est derrière aussi, formalité pour choisir le statut qu'on va avoir, aller s'immatriculer, et puis se faire connaître aussi.
Oui, justement, faut-il forcément avoir un diplôme, là, lorsque vous ouvrez votre entreprise de One Pâtisserie? Est-ce que ça a été, pour vous, important d'avoir ce CAP?
C'est obligatoire d'avoir le diplôme ou alors d'avoir 3 ans d'expérience de mémoire, mais qui doit être validé par la Chambre des métiers.
À quoi doit-on renoncer finalement quand on se lance dans ce type de projet? Vous parliez tout à l'heure de sommeil.
Oui, déjà, parce que clairement, au sommeil et puis plus globalement au confort et à la sécurité. Dans un premier temps, en tout cas, je pense que c'est des choses qui reviennent. Enfin, j'espère, sinon j'arrête tout de suite. Mais plus sérieusement, ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est renoncer au confort et à la sécurité pendant un certain temps. Et oui, le confort, ça veut dire les revenus fixes qui tombent tous les mois. Ça veut dire les vacances aussi. Ça veut dire les week-ends.
Bon, Nathalie, réagir, elle voilà. Partage votre point c'est de
ça.
Vue.
Ça veut dire le sommeil, on y revient. Donc oui, c'est...
Alors, on en vient à One Pâtisserie, justement, par rapport au nom de la marque.
Oui, donc c'est effectivement One, c'est mon nom de famille. Donc, j'ai mis un apostrophe pour faire un jeu de mots, pour dire gagner en anglais, que j'avais gagné mon défi de me reconvertir. Et puis, unique aussi, parce que initialement, c'était un projet qui s'adressait aux particuliers. J'avais en tête de proposer à chaque fois une expérience unique, que personne n'ait la même expérience en achetant un gâteau auprès de moi.
Vous proposez alors des gâteaux en vente?
Oui, effectivement, aujourd'hui, le One a un peu changé. Il s'adresse aujourd'hui uniquement à des entreprises, donc des cafés, des restaurants, et donc c'est une certaine manière pour eux de sous-traiter en fait tout partie de leur carte sucrée, voilà, parce que ils n'ont pas envie ou suffisamment de volume pour embaucher un pâtissier, aussi parce qu'ils recherchent une expertise particulière sur du sans gluten ou de la pâtisserie végétale.
Fatimata, est-ce que vous vous rappelez de votre première commande?
La première vraie, parce qu'il y a forcément les commandes du début, c'est les amis, c'est la famille. La première sur le site, oui, je me souviens très bien. Ouais, c'était été 2017.
Et comment vous avez, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là?
Beaucoup de joie, forcément. Enfin, quand on voit surtout un nom qu'on connaît pas, donc c'est pas un ami, c'est pas la famille, c'est
du réel. C'est du réel. Vos gâteaux sont bons.
Voilà. Donc ouais, c'était joie. Je me rappelle que j'ai même écrit à une amie en lui disant j'ai une commande de quelqu'un que je connais pas pour la première fois. Donc, mais oui, c'est vrai que même avant le site, effectivement, il y avait via le bouche à oreille aussi des gens que je ne connaissais pas qui commandaient. Je me rappelle effectivement, ouais, la première fois que j'ai eu quelqu'un qui m'appelait en me disant c'est un tel qui m'a donné votre contact. Ouais, c'était beaucoup d'émotions.
Et justement, comment vous avez réussi à vous faire connaître?
Alors, un peu les réseaux sociaux, mais pas beaucoup. Ça a été beaucoup le bouche à oreille et aussi un peu la presse à un moment.
Vous vous attendiez à un tel engouement?
Oui et non, parce que... Enfin, on a toujours... En tout cas, moi, j'ai tendance un peu, des fois, à sous-estimer ce que je fais, effectivement, et puis de voir, oui, qu'on peut faire des choses qui plaisent. Enfin...
Des choses qui plaisent et qui sont tendance aussi. Vous proposez des pâtisseries sans gluten et en plus végétales. C'est ce qui plaît aujourd'hui à vos clients?
C'est ce qui plaît. Ça répond aussi à une... En particulier sur le végétal, à une conscience un peu sur l'environnement qui s'éveille de plus en plus, de gens qui veulent moins consommer de produits qui viennent des animaux, etc. Et puis moi, c'est aussi une discipline qui me plaît beaucoup parce que c'est une vraie sortie de zone de confort. C'est explorer encore de nouvelles saveurs, des choses que je connaissais pas forcément. Donc oui, je pense que ça répond à la fois à une demande des clients et voilà.
Vous avez une recette préférée? J'ai vu qu'il y a beaucoup de fraises dans votre Instagram. J'adore la fraise, pas que je pose la question.
Il y a un peu une obsession sur la fraise. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est le fraisier. Et c'est ce que j'aurais...
Fraisier, voilà. Que Fatimata nous a apporté. Vous ne goûterez pas, là encore, mais je vous partagerai avec grand plaisir la photo. Merci encore, Fatimata.
Avec plaisir.
Joanne, vous avez une question justement pour Fatimata.
Oui, nous, donc en Afrique, on cuisine un peu au pif. Hein, c'est le pifomètre. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir donc ce côté africain où on est très au pif et sur la pâtisserie, surtout quand on crée des recettes, c'est quoi la technique pour déterminer les bons dosages?
C'est de tester. De tester en pesant, d'avoir effectivement cette approche un peu rigoureuse qui peut décourager certains parce que ça a l'air de tuer la créativité, alors que non, c'est justement, ça permet de l'être beaucoup plus. Et ouais, c'est vraiment de faire des tests, quoi.
Oui, du coup, il faut refaire la même recette 10, 15, 20 fois.
Quoi. Oui, des fois. Et puis, des fois, ça marche du premier coup.
Oui. Ouais. Alors, okay. Les filles, ne bougez pas. On va encore prendre une autre auditrice qui est en ligne avec nous, Ariane Nancy Agbo. Elle a 24 ans, elle est béninoise et elle est derrière la marque Poulo qu'elle a créée tout récemment, en mai 2019. Bonjour.
Bonjour.
Ariane Nancy, alors dites-nous, que se cache derrière cette marque Poulo?
Derrière cette marque Poulo, il se cache l'envie en fait de faire découvrir aux Africains et aux non-Africains les céréales de chez nous et les saveurs de chez nous.
Avec des yaourts, j'ai vu beaucoup de yaourts sur votre Instagram.
Oui, énormément.
Et vous ciblez aussi les enfants, c'est ça?
Oui, les enfants et les adultes.
Où sont commercialisés vos produits?
Nos produits sont commercialisés au Bénin, dans des boutiques, à Dakar, dans une boutique et bientôt sur un site, à Paris, dans l'épicerie de Bamako, Paris, Bamako.
Quelle sera la prochaine étape de votre projet Poulo, Ariane Nancy?
La prochaine étape, c'est d'agrandir l'entreprise et de recruter des femmes. Parce que pour l'instant, nous travaillons qu'avec des femmes qui nous fournissent ces matières premières. C'est une grande fierté pour nous, mais on voudrait en faire une équipe 100% féminine aussi au sein même de l'entreprise.
Merci beaucoup Ariane pour votre appel et bon courage. Merci. Surtout pour votre projet.
Merci.
Fatimata, derrière la marque Timawan, ce sont les particuliers qui sont ciblés.
Oui.
Alors là, vous proposez quel type de service?
Là, je propose déjà effectivement une expérience un peu plus proximité avec les ateliers de pâtisserie qui vont repartir pas mal à la rentrée, où on est en petit comité avec placé donc sous le signe de la créativité et du partage. Ça va aussi être des gâteaux comme le fraisier en ce moment. Il n'y en aura pas beaucoup, mais ça va être un gâteau de saison à chaque fois, pas proposé en grosse quantité, parce que j'aime bien aussi ce côté où je propose une expérience, on y revient encore une fois, un peu unique, de gâteau fait avec des super ingrédients et en petite quantité. Et aussi des dégustations toujours en petit comité où on va être 8 à 10 personnes. Les personnes sont assises et me regardent faire des dressages devant eux. Et c'est une expérience souvent autour d'un seul produit, donc récemment la fraise encore une fois.
On adore, vous inquiétez pas, c'est le matin.
Toujours elle. Et c'est de faire voyager les gens, les amener dans des endroits entre guillemets qui connaissent pas forcément, sur des saveurs qui sont inconnues ou peu connues, des associations qui vont surprendre. Donc vraiment proposer des expériences de proximité et faire voyager les gens.
Faire voyager, vous êtes originaire du Sénégal, c'est bien ça?
Oui.
Comment le Sénégal intègre tous ces volets que vous proposez?
Alors c'est beaucoup moins par les ingrédients comme la plupart des gens, mais ça l'est, hein, parce que j'utilise du bissaps, qui est encore un des ingrédients les plus simples pour moi à utiliser, mais d'autres fruits comme la sapotille, la goyave, etc. Mais c'est aussi dans la manière de réfléchir et de faire les desserts, comme par exemple dernièrement, je disais, j'ai fait des pastels sucrés, donc avec une sauce à base de fruits, mais voilà, donc je l'ai imaginé à la manière dont on le fait au Sénégal, mais version sucrée. Et c'est aussi voilà sur la manière dont je fais certaines recettes. Je l'ai fait à la sénégalaise, mais adapté à la pâtisserie.
Et en revenant juste deux minutes sur les ateliers, Nathalie organise aussi des ateliers. Est-ce que vous pourriez organiser des co-ateliers comme ça, un peu sucrés, salés, sur deux volets?
On pourrait carrément.
Oui, bien sûr.
Surtout qu'on
encore
a des...
que j'ai beaucoup de choses à apprendre.
Mais
aussi,
il y a des collaborations.
On peut apprendre toutes les deux.
Hein, que, ouais, et je clairement. Fais du sucré aussi. Hein. J'ai un atelier le 27, spécial pizza et salé et sucré. Avec les enfants, donc...
Ça donne envie en tout cas. Merci. On va, juste avant de clôturer ce plateau, donner la parole à Anna qui est aussi avec nous ce samedi. Nos auditeurs vous entendent dans votre chronique culture et vous avez une autre casquette avec une rubrique culinaire à la télévision. Et on en profite pour vous donner la parole avec peut-être une idée de recette pour nous aujourd'hui.
Une recette très simple à reproduire à la maison, qui est d'ailleurs de notre chère chef Nathalie Brigongou. Une recette de madeleine à base de manioc et de mil. Une recette donc sans gluten. Donc pour le petit mot de la nutritionniste, le manioc contient des glucides complexes qui sont lentement assimilés et diffusent une énergie durable après le repas. C'est un aliment que les diabétiques peuvent donc consommer sans trop perturber leur équilibre. Alors pour la recette, à peu près 6 à 18 madeleines. Le temps de préparation est de 10 minutes. Faut compter un temps de repos de 15 minutes, voire une heure. Et le temps de cuisson très rapide de 10 à 15 minutes en fonction du four. Pour les ingrédients, 75 g de farine de manioc, 35 g de farine de mil ou de noix de coco râpée, 3 œufs, 63 g de beurre salé, 40 g de cassonade, 5 g de levure chimique et 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger ou 2 cuillères à soupe de jus d'orange et de zeste d'orange bio. Alors, la réalisation de la recette. Il faut battre les œufs avec le sucre et la fleur d'oranger, ajouter les farines, la levure et délier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul grumeau. Ensuite, faire fondre le beurre, le laisser tiédir, l'incorporer à la préparation et laisser la pâte reposer. Après avoir bien mélangé la préparation, remplir les moules aux 3/4 et enfourner entre 8 et 15 minutes dans un four à 190 degrés en fonction des appareils. Alors, pour les petites astuces, laissez reposer environ 30 minutes à 1 heure au réfrigérateur la pâte ou 10 à 15 minutes au congélateur pour avoir une belle petite bosse. Alors là, c'est la chef qui m'a bien précisé que pour avoir une belle bosse, voilà la petite astuce. Vous pouvez parfumer ces madeleines comme vous le souhaitez, de zeste d'agrumes, par exemple citron, mandarine ou orange, et pourquoi pas l'eau de rose ou des morceaux de fruits frais et rajouter du rhum pour ceux qui veulent. Voilà pour la recette.
Merci, et puis on la partagera bien évidemment sur notre page Facebook et nos réseaux sociaux. Et vous pouvez également retrouver cette recette dans Mon imprécis de cuisine, l'ouvrage de Nathalie Brigaud-Goum. Merci à vous, Nathalie Brigaud-Goum, d'ailleurs, d'avoir participé à cette émission.
Merci, Diara, pour l'invitation.
Merci également à vous, Fatima Tawan. Vous êtes pâtissière et fondatrice des marques Timawan et One.
Merci pour l'invitation, Diara.
Plaisir partagé. Et merci à vous, chère Joanne, pour votre participation exceptionnelle aujourd'hui.
Merci, Diara.
Et Anna, un grand merci à vous.
Je vous en prie.
Petite pause musicale avec YPWG pour toi.
Je prendrai tout mon temps pour toi. Mon cœur, j'ai la bonne âme à toi. C'est toi qui me soutiens. Et sans toi, je me sens seul. Je mets ma vie entre tes mains. Sans toi, je ne suis rien. Ah, car tu es mon tout. Oui, mon tout. J'ai appris que mes actes avaient des conséquences. Grandir et marcher, se relever quand je me plante. Mon Dieu a besoin qu'on lui rende louange, je mets en grand ensemble avec les anges. Dieu donne-moi un coup de main. Dieu donne-moi un coup de pouce. Je suis simple humain. Mais toi c'est bien, tu es mon Dieu. Et oui, tout le monde le sait. Ce que je veux, c'est être à tes côtés et te servir de mieux en mieux. Même si je dois y rester. Je te donne mon cœur, ma vie, mon âme. Yeah. Un nouveau départ, c'est ce que je cherche, père. Je me languis de toi. Yeah. Oh ah, oh ah, oh ah. Je te donne mon âme. Avancer. Les tentations veulent me mener vers l'autre côté. Mais ton esprit est en moi, donc je laisse de côté. Pour moi, tu ouvres le ciel. Et pour toi, je serai le sel. Mais maintenant que je suis lavé, tu oublies à tous mes péchés. Et la flamme qui brûle en moi, elle s'est manifestée. Je prendrai tout mon temps pour toi. Mon cœur, je l'abandonne à toi. C'est toi qui me soutiens. Et sans toi, je me sens seul. Je mets ma vie entre tes mains.
YPWG pour toi.
Alors on dit quoi ?
Alors on dit quoi ? Continue de parler de cuisine et je suis aux côtés de Joanne qui va vous présenter notre prochaine invitée. Bonjour Joanne.
Bonjour Diara. Elle s'appelle Ndei Tioy. Elle est journaliste, passionnée de cuisine et elle partage ses recettes sur Instagram et sur YouTube. Bonjour Ndei.
Bonjour Joanne. Bonjour Diara.
Bonjour Ndei.
Alors Ndei, comment est-ce que vous êtes tombée amoureuse de la cuisine ?
Alors, je suis tombée amoureuse de la cuisine parce que je suis l'enfant et le petit enfant de personnes qui sont gourmandes et vraiment des cordons bleus. Mon père était un vrai cordon bleu. Il est de Saint-Louis, du Sénégal. Tout le monde sait que quand on est né à Saint-Louis, on est naturellement très bon pour faire la cuisine. Ma mère est du Gabon et je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir ce brassage culinaire dès la petite enfance. À Abidjan, c'était très cosmopolite, elle est encore maintenant. Et donc, j'ai découvert les cuisines grecques, libanaises, asiatiques en général, même Tex-Mex, dès mon enfance à Abidjan, dès les années 90, en fait. Donc, ça a marqué mon palais et j'ai eu toujours eu, pendant toute ma vie, l'envie de brasser la cuisine et de mettre en avant la cuisine africaine en général.
Donc, vous avez une plateforme qui s'appelle Oh Happy Day, oui. Qu'on peut retrouver donc partout sur les plateformes. Ça veut dire que Oh Happy Day, est-ce que c'est de la cuisine africaine ou c'est de la cuisine du monde africanisée? Comment on peut expliquer ça?
Alors, disons que c'est de la cuisine du monde africanisée, la cuisine africaine avec quelques ingrédients du monde entier, parce que j'aime beaucoup regarder les tactiques des uns et des autres en Asie, leur façon de mariner, leur façon de frire qui est différente, ou alors en Amérique latine. Enfin, je m'intéresse beaucoup à ça. À la base, je voulais être ethnologue enfant, donc je pense que c'est peut-être pour ça que j'aime bien voir comment font les différentes populations, les différents pays, et connaître leurs spécialités, les ramener un peu chez moi à ma sauce.
Et vous avez déclaré que vous êtes un peu saoulée que tout le monde utilise l'Afrique comme une mode dans la cuisine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que moi, ça me surprend.
C'est quelque chose qui me... Ça m'agace un peu parce qu'on a... Bon, c'était à prévoir. C'est bien, il y a un grand essor de la cuisine africaine, de la gastronomie en plus. Ça, c'est vraiment très bien. Mais il y a quelques petits malins qui s'insèrent dans ça pour faire ce que moi, j'appelle du n'importe quoi. Et c'est encore très personnel. Il y a quelques jours, j'ai acheté une bouteille de jus. Il y avait marqué que c'était du Bissap. Je vais pas dire la marque, il y avait marqué que c'était du Bissap. En premier, il y avait marqué Bissap. Donc, il y avait du Bissap, il y avait d'autres choses dedans, de la grenade et tout. Et quand je tourne, déjà quand je goûte, ça n'avait aucun goût de Bissap. Et quand je tourne voir les ingrédients, le Bissap était à la fin, il y avait 0,2% d'hibiscus. Okay. Pourquoi appeler une boisson Bissap si c'est pour mettre 0,2% d'hibiscus? Donc, je trouve que là, c'est ça, en fait, qui m'énerve. C'est que c'était bien, il y avait un emballage un peu wax. Enfin, voilà, quoi. Il y avait un monsieur un peu passant maître Gims, prêt à couper, à décaler et tout. Mais en tout cas, la boisson, elle, m'a pas du tout transportée. J'ai pas trouvé le goût, quoi. Et malheureusement, il y a beaucoup de ça en ce moment, quoi.
Et ben, du coup, ça me fait penser à un débat qui est souvent récurrent entre la cuisine africaine traditionnelle et le fait de l'internationaliser pour la mettre au niveau des standards occidentaux. Il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a des gens qui estiment qu'on n'a pas besoin de nous travestir parce que les cuisines italiennes ou asiatiques n'ont pas eu besoin de se travestir. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat?
Je dirais que ces deux écoles ont le droit d'exister. Par exemple, quand vous allez en Inde, le terme curry, c'est pas du tout ce que nous, on connaît ici en Occident. Mmh. Les Indiens ne connaissent pas le curry. Ils font ce qu'on appelle le garam masala. C'est un mélange. Mmh. Ils utilisent des feuilles de curry, ils utilisent des feuilles du cardamome, des choses comme ça, pour faire leur sauce. Mmh. Arrivé maintenant en Inde, quand les Anglais ont découvert ça, qu'ils l'ont ramené chez eux, ils l'ont appelé curry. Alors, évidemment, chez moi, si je veux faire un curry rapide, je vais utiliser le curry en poudre. Mmh. Mais ça m'empêchera pas d'aller dans un vrai restaurant indien quand j'aurai envie de bien manger indien. Mmh. Et je pense que pour la cuisine africaine, on doit pouvoir proposer les deux choses aux gens. Mmh. On doit pouvoir proposer la possibilité d'aller dans des restaurants parisiens gastronomiques qui font une excellente cuisine. Mmh. Et on doit être prêt à payer pour ça aussi. Ça aussi, c'est un des soucis. Mmh. Et on doit également pouvoir, et c'est ce que je regrette un peu, faire chez soi, même quand on n'est pas d'origine africaine, pouvoir faire un mafé. Parce que quand on réfléchit bien, ça n'est pas bien compliqué quand on connaît les différentes étapes. Mmh. Alors, il y a des livres, il y a toutes ces choses-là. Mais on peut aller encore plus loin. Vous voulez faire un couscous chez vous, vous allez dans n'importe quelle grande surface, il y a des épices couscous. Si vous voulez faire un mafé, vous devrez pouvoir trouver des épices mafé. Mmh. Même si c'est pas quelque chose d'extraordinaire que vous allez faire, vous allez au moins vous rapprocher de ça. Mmh. Vous tapez pas sur le dos quand vous faites un couscous moyen. Mmh. Vous dites, j'ai fait un couscous. Vous êtes pas en train de vous noter chez vous. Mmh. Et on doit pouvoir faire ça également quand on est africain et que on vit en Europe, ou alors que même quand on vit en Afrique, qu'on n'est pas un expert, on doit pouvoir trouver des épices facilement. Voilà. Et je pense que c'est important de respecter les deux. Les deux ont leur place.
Et en parlant d'épices, on me dit dans l'oreillette que Ndeye, vous allez lancer une marque d'épices.
Oui, ça c'est mon bébé, c'est mon chouchou. Alors en fait, je vais bientôt lancer une marque d'épices qui s'appelle Pistis. Et ça va être une gamme de différentes épices qui représentent différents pays d'Afrique qui me sont chers. Et avec donc un mélange du goût, de la saveur du pays. Par exemple, je disais l'autre jour que si on va dans un mariage congolais et qu'on a goûté les kamundélé, les brochettes des Congolais, on sait que il y a un petit goût spécial. Alors on ne peut pas à chaque fois se faire inviter dans des mariages. Si on a envie de manger des bonnes brochettes, on doit pouvoir refaire ces brochettes-là. Et moi, j'ai tendance, quand je vais à Château-Rouge, quand je vais ailleurs et tout, je demande aux mamans, mais comment vous faites? Comment, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous mettez et tout? Mm-hmm. Certaines restent muettes, elles ne me disent rien du tout. Mais quand certaines veulent bien partager, je prends. Et ça m'a permis, en fait, avec cette gamme d'épices-là, de faire, par exemple, pour le Mali, on doit pouvoir trouver un mélange sans grande prétention, mais qui soit bon et naturel, de tomates en poudre, de netetou, sumbala, pour ceux qui connaissent, avec du piment en poudre, et pouvoir saupoudrer ça sur sa viande, la mariner, et lancer son mafé, et avoir un résultat gustativement qui va se rapprocher du vrai mafé, sans être un cordon bleu et sans sortir de chez soi.
Est-ce que c'est pas difficile de reproduire ces goûts? Parce que moi, je sais, par exemple, que quand j'essaie de faire le poisson braisé à la camerounaise chez moi, dans mon four, qui n'est pas du tout au charbon, bah, le goût n'est pas le même, mais les épices, elles ont voyagé, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est pas difficile de reproduire le goût du terroir?
Je pense que si, c'est difficile de reproduire le goût du terroir, mais c'est pareil, hein, pour quelqu'un qui vit à Paris, qui veut retrouver le goût de la vraie bouillabaisse marseillaise, si c'est pas un poisson qui a été pêché là sur le vieux port, sa bouillabaisse n'aura pas du tout la même saveur. Donc, c'est pas véritablement le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est de se dire que notre cuisine, elle doit sortir du fin fond on doit arrêter de rester dans cet univers un peu ténébreux où les gens savent pas trop ce que c'est et tout. C'est quelque chose qui est très simple, en fait, et que on peut montrer aux autres. Les autres l'ont fait sans aucun problème et nous aussi, on doit pouvoir réussir à le faire.
Et à ce jour, on en est où alors avec Pistis? Est-ce qu'on a déjà démarré? Est-ce que...
Alors, avec Pistis, on a des samples, on a des exemplaires qui sont prêts, qui sont en test, qui doivent passer, bon, comme c'est quelque chose de, qui se consomme, ça doit également passer par des vérifications hygiéniques et tout ça. Donc, j'attends d'avoir le feu vert et, normalement, on va être prêt pour la fin de l'année.
Bah super. Merci beaucoup, Ndaye.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Et très bonne journée.
Merci.
Alors, on dit quoi? Jaranjay.
Après avoir passé plus de 10 ans dans l'informatique, le jeune chef de projet Aïté Adjavon a décidé de tout quitter pour monter son propre projet Africube. Je n'en dis pas plus car nous sommes en ligne avec ce jeune entrepreneur. Bonjour Aïté.
Oui, bonjour Diara.
Alors, on parle de l'art culinaire africain. Que vous évoque la cuisine africaine?
Bah, la cuisine africaine, c'est l'assaisonnement, c'est les épices, c'est vraiment quelque chose de riche et de naturel. Avec tout ce qu'on a sur notre terre, l'Afrique, c'est la terre riche d'épices. On a vraiment beaucoup de goût et de saveur dans nos cuisines.
Des cuisines que l'on peut agrémenter avec justement des épices et des bouillons. Vous avez créé il y a 2 ans et demi Africube, un bouillon 100% naturel à partir des produits du terroir africain. Les bouillons industriels sont des produits transformés riches en sel et additifs qui n'ont rien à faire dans le cadre d'une alimentation équilibrée et saine. Quelle est la valeur ajoutée d'Africube?
Mais justement, Africube a été créé pour donner une alternative saine et locale à justement à tous ces bouillons industriels qui envahissent nos marchés. Comme vous avez dit, qui sont bourrés de sel, souvent plus de 60%, avec du glutamate et rien de naturel à l'intérieur. Et ce qui était à la base un additif est devenu maintenant la base de toutes nos sauces en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc on a créé Africube justement pour donner cette alternative et avoir un produit beaucoup plus adapté à nos plats, à nos sauces, avec que du naturel et du local.
Aïté, vous avez justement mentionné ce fameux glutamate ou sodium, c'est du sel en fait, du glutamate monosodique, c'est un exhausteur de goût. Comment vous avez pallié à cet ingrédient avec ces bouillons Africube?
En fait, on a pallié avec le goût et les saveurs et la richesse de nos épices. Vous savez, le glutamate, c'est quelque chose qui vous fait tout aimer. Ça donne juste l'illusion du goût, mais en fait, ça n'apporte absolument rien. Donc c'est vrai que maintenant, nos palais, nos papilles sont habitués au glutamate, et dès qu'il n'y en a plus dans la cuisine, on ne sent plus cette sensation, on a l'impression que rien n'a plus de goût. Et donc, une fois que vous regoutez aux vraies saveurs, aux vraies épices de chez nous, c'est là que vous retrouvez le goût des choses. C'est un peu comme les fumeurs qui retrouvent le goût des aliments lorsqu'ils arrêtent de fumer, si vous voulez. Donc, on a beaucoup d'épices à l'intérieur d'Africube qui sont transformées de manière artisanale et en fait, c'est juste le naturel qui donne le goût à nos plats sans chimie.
J'ai vu que vous utilisiez notamment le néré, la moutarde de néré, qu'on appelle aussi netetou au Sénégal.
C'est un élément essentiel. Le sumbala, donc au Mali, le netetou au Sénégal, chez nous au Togo, on l'appelle Afiki. Ça, c'est vraiment, il a des vertus thérapeutiques et nutritives incroyables. Et donc, ça mérite vraiment d'être exploité et on doit en encourager la consommation. C'est riche en protéines, en oligo-éléments. C'est vraiment notre moutarde traditionnelle, notre bouillon traditionnel. Et donc, j'ai vraiment voulu utiliser cette moutarde dans la composition d'AfriCube, avec entre autres aussi la noix de muscade africaine, le gingembre, l'oignon, enfin que des bonnes choses.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites la promotion du Made in Africa à travers ce projet AfriCube.
Oui, c'est vraiment très important. C'est au-delà de l'aspect gastronomique et commercial, là, il y a tellement d'impact avec ce projet. Donc le Made in Africa, le Made in Togo, c'est un projet panafricain. C'est-à-dire qu'on crée une plus-value à partir de nos matières premières. Il y a une création de richesse. C'est-à-dire que généralement, en Afrique, ce qui se passe, c'est que toutes nos matières premières sont exportées brutes, sans transformation, et tout ce qu'on consomme est importé. Donc il n'y a aucune création de richesse, on est de simples consommateurs. Donc avec AfriCube, on prend nos matières premières, elles sont transformées, il y a un travail qui est fait, et maintenant on pousse à consommer ce qu'on produit. Et c'est comme ça qu'on va arriver à se développer. Donc ça crée de l'emploi, surtout au niveau des femmes en milieu rural, ce qui est très important. Elles gagnent un salaire parce qu'on achète leurs matières premières en grosse quantité. C'est de l'argent qui est réinjecté dans leur communauté, au village. Et c'est très important. On valorise aussi nos matières premières. C'est bon pour la santé. Il n'y a vraiment que des aspects positifs.
En tout cas, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Aïté Adiavant. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur d'AfriCube, un bouillon 100% naturel, made in Togo.
C'est ça, exactement. Et vous pouvez le trouver non seulement au Togo, mais très très bientôt au Burkina Faso, au Bénin, au Ghana, au Mali, et très prochainement aussi en métropole en France.
Eh ben, bonne continuation, Aïté.
Merci beaucoup, Diarra.
Merci infiniment.
Merci, au revoir.
Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation des bouillons de cube, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de RFI pour réécouter l'émission Les Goûts du Monde présentée par Clémence Denavy. Cette émission revient notamment sur le cube aux orties. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Les Goûts du Monde le samedi sur RFI à 16h10 TU. Allez, un peu de musique pour agrémenter notre émission autour de la cuisine africaine avec Erkas, chanteur camerounais qui nous propose son nouveau son, Kolena Moka. On écoute.
Hello, Diarra. Moi, c'est l'artiste Erkas. Pour mettre fin au tribalisme, j'ai sorti cette chanson intitulée Kolena Moka, qui stipule juste inséparable. Vraiment, félicitations pour ton programme. Alors, on dit quoi ? Nimkine.
On est marré pour le meilleur et pour les autres, bébé, je vais tout supporter. Marie, tu sais très bien que c'est toi que mon cœur a préféré. Lui d'évangile les hommes, voyango, on s'est marié. Ne coule plus le sang du jaloux, car ne me rupe ma Kolena Moka. Kolena Moka, Kolena Moka. Ne ma Kolena Moka, Kolena Moka. Tiens dans mes bras, Aoudé ma Oudoune.
Minato, binato wa ben guyato yo gabate na bato yo genato no kulone te yo Mina minato, kwa bécu à tien, gna pas nos coulons ne tiennent les sorciers, les jaloux, gna, gna, le panté, le voyou, wenam, wenam, tu tiens mon a, colena moka, when tu dis mon a, colena moka, ne m'amène, nous on est colena moka, gna non wena, gna non mena, gna non wena, colena moka, cole, cole, colena moka, colena moka, colena moka, cole, cole, colena moka, colena moka, cole, cole, ma colena moka, Namoka, Tinda Mendra, Awide Maudunu, Wamudunu, baby, 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 Muduna, we are Muduma Kande Moa, No Madam Dunu, Woman Bua, baby, 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 Olena Moka, Cola, Cola, Olena Moka, Olena Moka, Cola, Cola, Ma Olena Moka, Olena Moka, Tinda Mendra.
C'était Erkas, Colena Moka. De rendre le micro, mais gardez à l'esprit qu'on peut rester en contact grâce aux réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Insta sont là pour ça. Et pour réécouter l'émission, eh bien rendez-vous sur SoundCloud, le site de RFI ou encore Google Podcast. Et attention, changement de fréquence à Freetown. Dorénavant, RFI sera disponible au 89.7 FM à partir du 29 juillet. Bon week-end à tous. Ugnon ha gongol. À bientôt.